Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver pour marcher vers le bien-être. Je me sens toujours privilégié d'inviter pour vous à notre émission des personnes au parcours exceptionnel. Ainsi, j'ai le grand plaisir de m'entretenir en début d'épisode avec deux marcheurs pour qui notre activité de prédilection s'est avérée une bouée de sauvetage. Patrick Auger nous a déjà rendu visite pour nous parler de la marche afghane qu'il enseigne par le biais des nombreuses activités de formation et d'accompagnement à la randonnée de son entreprise Kilomètre. En tant que conférencier expérimenté, il partage avec authenticité et émotion ses expériences sur les sentiers les plus emblématiques du monde, dont celui des Appalaches et le Mont Washington. Et puis un jour, une nouvelle déconcertante allait tout changer. Éric Lafortune est aujourd'hui propriétaire de dépanneur à Lanoraie. En 2014, on lui annonce qu'il est atteint de leucémie. Sa sœur lui sauve la vie grâce à une greffe de moelle osseuse. Sur son lit d'hôpital, il formule deux souhaits: être propriétaire de dépanneur et faire le chemin de Compostelle. L'année suivante, son premier souhait se réalise, le dépanneur, mais quelques années plus tard, l'arthrite sceptique s'invite dans sa vie. Suite à une opération pour remplacer une hanche, un de ses clients au dépanneur lui suggère la marche afghane pour retrouver la forme. Et oui, ce même Patrick Auger. Le deuxième souhait, Compostelle, deviendra bientôt réalité. En deuxième partie de l'épisode, nous retrouvons depuis Québec et avec toujours autant de plaisir notre serein pèlerin Michel O'Neill et sa toute dernière trouvaille, la marche comme stratégie pédagogique à l'université. Et pour couronner le tout, une très belle chanson de Sylvain Lelièvre, Petit Matin. Mais pour l'instant, place à nos marcheurs Éric et Patrick. Alors bonjour à vous deux et merci de prendre le temps de partager vos vécus inspirants et éloquents.
Merci Denis, merci de l'invitation.
Alors Patrick, re-bienvenue, je pourrais dire. On vous connaît un peu depuis en fait les tout débuts de l'émission Marcher vers le bien-être, mais rappelez-nous un peu votre parcours de marcheurs, d'entrepreneurs et d'accompagnateurs, de marcheurs et de marcheuses un peu partout dans le monde.
Oui. J'ai commencé à marcher vraiment de façon plus assidue autour des années 2000. Puis c'est drôle parce que j'y pensais récemment suite à ce qui m'était arrivé, parce qu'il y a eu un moment déclencheur au début des années 2000 qui était un surpoids. Donc, je constatais que je prenais du poids, puis j'avais un travail sédentaire et j'ai décidé de m'activer. Puis j'ai choisi la marche pour, ça coûte pas cher, donc pour me mettre à bouger, donc à faire de la randonnée. Et on se projette quelques années plus tard, en 2019, et à ce moment-là, ben, je démarre mon entreprise Kilomètre, qui est basée essentiellement sur la marche pour inspirer les gens à marcher. Entre-temps, évidemment, j'ai fait plusieurs longues randonnées, que ce soit, j'ai fait 7 chemins de Compostelle, j'ai fait le chemin de Stevenson,
Cévennes.
Oui. Et l'Appalachian Trail, le Sentier international des Appalaches, en 2017. Donc, tout ça m'a amené à démarrer Kilomètre en 2019. Et depuis 2019, on accompagne, on tente d'inspirer les gens à marcher, à bouger, tout simplement.
Ça. Et il y a les randonnées qui font du bien aussi, là.
Oui, effectivement. Donc, vous avez participé comme co-animateur, randonnée qui fait du bien, le défi du Mont Washington, où on amène les gens à repousser leurs limites. Éric a d'ailleurs fait partie d'une cohorte du défi du Mont Washington. Et plus récemment, on a une collaboration, un partenariat avec Marcher Autrement au Québec. Donc, vous avez reçu l'organisatrice, Michèle Godette. Donc, le tout est pour inspirer les gens à bouger, à se lever. On est une société assise, comme on dit. Donc, amener les gens à marcher davantage.
C'est ça. Donc, vous êtes parti du surpoids, vous vous êtes mis en forme, vous êtes en forme.
n'est-ce pas? Oui, oui, absolument, absolument.
Jusqu'à ce petit incident qu'on pourrait dire cet été, un examen médical de routine.
Oui, moi, régulièrement, étant donné que j'accompagne des gens, je m'assure de toujours être en bonne santé au niveau de la médecine, donc les bilans sanguins, les efforts, le tapis roulant. Mm-hmm. Et cet été, c'était un super été, beaucoup d'activités, le défi du Mont-Washington qui est en branle. D'ailleurs, j'ai fait le Mont-Washington encore dans un temps habituel. J'ai mis 5 heures pour faire la boucle du Mont-Washington.
Et au printemps, vous étiez sur les Cévennes, je crois.
Au printemps, c'est là que j'étais, les Cévennes. Mm-hmm. Donc, 3 semaines de marche et la traversée présidentielle en accompagnement cet été. Donc, c'est 11 sommets de 4000 pieds.
Wow.
Donc, c'est mon test annuel, ça. La traversée présidentielle que je fais habituellement.
C'est quoi la traversée présidentielle?
C'est 11 sommets dans les montagnes blanches de 4000 pieds.
OK.
Donc, on les enchaîne. Habituellement, je le fais en une journée. Donc, c'est une randonnée d'à peu près 14 heures. Donc, on part aux 5 heures du matin, on revient là vers 8 heures ou 20 heures, 21 heures le soir. Et c'est mon test pour me dire, est-ce que je suis en forme encore? Mm-hmm.
C'est important pour vous d'être en forme, justement, pour bien accompagner.
Exactement.
Vos clients, vos marcheurs, marcheuses.
Donc, je l'ai fait encore cette année. C'est la 7e fois que je le faisais.
Patrick se dit, la forme est là.
Absolument.
C'est le bonheur total.
J'en parlais un peu plus tôt avec Éric cet été. Même, je me disais, je suis tellement en forme, je me sens bien, je me sens vivre. J'ai tellement eu un été bien occupé, en forme. Et je vais à mon bilan sanguin et tout ça, bilan sanguin, tout va bien. Rien de particulier, rien à noter. Et je vais à une clinique privée, puis l'infirmière a dit, moi, j'irai passer un test à l'effort. Parce que je lui parlais, j'ai fait, en fait, juste avant de partir pour les Cévennes, 2 bronchites. Une après l'autre. Puis là, je me peignais un peu là d'une petite douleur ou un brûlement là sous le menton, rien de. Mais elle voulait me prescrire d'autres pompes là pour la respiration et tout ça.
Oui, oui.
Mais elle dit je passerai un test à l'effort. Donc j'ai pris le rendez-vous avec
le tapis roulant.
Et je prends rendez-vous avec mon médecin de famille, me prescrit avec un cardiologue le tapis roulant. Je vais faire le test. J'embarque sur le tapis roulant, mais toujours confiant que je suis en super forme. Je fais mon tapis roulant, puis ça va. Moi, je me sens bien. Je fais tous les tests, puis à un moment donné, le cardiologue
interrompt. Donc, vous n'êtes pas essoufflé, tout va bien.
Oui, tout va bien. Je me sens très, très, très bien. Donc, rencontre le cardiologue après le test. Et là, le cardiologue, il regarde les tests, puis il dit, « Monsieur Auger, ça va vraiment pas bien. » Comment ça, ça va pas bien? Là? Je croyais qu'il me faisait une blague.
Oui.
Ça va vraiment pas bien. Il se passe quelque chose de pas normal. On doit vous hospitaliser maintenant.
Ouf.
Sur le champ. Mais là, je croyais qu'il me faisait une blague.
Oui.
Ou, monsieur le cardiologue, est-ce que vous avez le bon dossier devant vous? Là? C'est pas possible.
Absolument.
Parce que, historiquement, mes tapis roulants, même le cardiologue est impressionné. Mm-hmm. C'est pour votre âge, habituellement, vous êtes meilleur que le groupe votre groupe d'âge. Donc, il dit non, c'est pas une blague. Vous devez être hospitalisé maintenant et vous devez passer les tests à l'Institut de cardiologie, tout ça. Donc, c'est le choc sur le coup, évidemment, mais ça a duré quelques instants.
Mm-hmm. Oui.
Donc, le temps de prendre conscience de qu'est-ce qui se passait. C'est quoi la réalité de l'accepter?
C'est tout un choc, quand même.
Oui, quand même. Mais j'ai été surpris. Ça a duré quelques minutes, le temps d'accepter, de dire, OK, il se passe ça. Mm-hmm. Et là, voici la réalité. Donc, voici... mais on se questionne, parce que là, je me dis, moi, je suis en forme. J'ai généralement une bonne alimentation. Mm-hmm. Je bouge à tous les jours. Je marche à tous les jours. Ça peut pas m'arriver, ça. C'est impossible. Je dis aux gens, depuis de nombreuses années, vivez chaque moment, chaque instant, parce que vous savez pas demain de quoi il sera fait, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver demain. Donc là, ça me touchait parce que évidemment, moi j'étais là pour un test de test à l'effort et c'était maintenant. Moi j'étais là pour une heure et tout était réglé
c'est ça,
après.
C'est ça. Quel était le problème?
C'est vraiment des artères coronariennes qui étaient bouchées. Donc, mais en fait, on s'en le su. Lui, c'était le suite au test à l'effort, c'est ce qu'il a mentionné, mais c'est bouché à quel pourcentage, à quel niveau.
C'est ça,
il fallait passer un autre test, là, la coronographie, pour aller voir vraiment qu'est-ce qui est bouché. Puis effectivement, il y avait des artères là qui étaient les artères coronariennes qui étaient bouchées.
Donc c'était sérieux.
Ah, c'était sérieux. Et moi, une semaine plus tard, j'accompagnais un groupe pour le défi du Mont Washington.
Oh là là.
Donc, mais là, je devais rentrer à l'hôpital maintenant, donc je devais trouver quelqu'un pour me remplacer. C'était ma principale préoccupation.
Donc, c'est surprenant parce que vous n'aviez pas de symptômes comme tel, sauf peut-être la bronchite ou deux, mais ça, tout le monde en a, tout le monde peut en avoir. Alors, ça vous a quand même surpris beaucoup.
Ah, absolument. Oui. Comment ça? Moi qui fais attention, moi qui bouge, pourquoi?
Et les autres tests ont révélé quoi?
Les autres tests, c'était la coronographie, donc qui s'est passée à l'Institut de cardiologie de Montréal, et il a révélé qu'il y avait des artères qui étaient effectivement obstruées là, à 70%, un autre à 80%. C'est ce qui a été découvert à ce moment-là.
D'accord. Donc, intervention.
Oui, mais donc il va falloir faire une intervention. Il faut aller. On aurait pu, au moment de faire la coronographie, si c'est pas trop bouché, ils peuvent mettre un stent, une espèce de ressort pour pouvoir ouvrir l'artère et laisser circuler, la garder ouverte. À cette étape-là, je me suis dit, c'est juste ça qu'ils vont faire. Ça va s'arrêter là. Mais non, ça a été plus compliqué que ça. Le stent, ça sera pas suffisant. Il va falloir vraiment aller faire ce qu'on appelle un pontage ou dépontage. Oui. Et au moment de la coronographie, ils ne savaient pas encore combien. Donc, il va falloir faire une bifurcation pour pouvoir alimenter le cœur, en fait, le nourrir en oxygène.
C'est ça, oui. Donc, une des leçons, c'est que même si on se sent en forme, il est toujours prudent parfois d'aller voir notre médecin.
Ah, absolument.
Pour des tests, surtout si on fait beaucoup d'activités physiques.
Oui. Puis, moi, ma question à mon cardiologue, j'ai dit, comment ça m'arrive à moi qui est en forme? Il dit, là, je ne cherchais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi, le pourquoi du quoi, parce que ça arrive à des athlètes, ça arrive à tout le monde. Vous, il y a quelque chose qui est bouché à quelque part, mais ça aurait pu être une autre maladie. Là, vous avez une maladie coronarienne, mais ça aurait pu être une autre maladie, un cancer ou un autre problème de santé. Oui.
Donc, vous avez subi l'intervention avec succès.
Oui, puisque je suis ici, tout va bien.
Et si ça, tout va bien et rapidement. Rapidement, c'est ça?
Oui, en fait, il y a 5 semaines, c'est, mercredi, là, ça a fait 5 semaines que j'ai eu l'intervention. Mm-hmm. Donc, c'est l'intervention qu'on a fait, c'est les pontages. Donc, ce qu'on appelle communément l'opération à cœur ouvert, là, c'est une sternotomie qu'on a fait.
Sternotomie.
Donc, ouvrir pour aller faire les pontages. Et c'est impressionnant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que c'est incroyable de sortir de l'opération puis de se sentir quand même, de ne pas avoir aucun souvenir, mais d'être quand même en assez bonne forme.
Et votre état physique était bon, en fait. C'est peut-être une des leçons de garder la forme dans l'éventualité où il se produit un incident comme celui-là.
Ben, c'était le constat quand j'étais à l'hôpital, le lendemain de la chirurgie ou la journée de la chirurgie, de me sentir dans l'état où j'étais. Le constat était parce que j'étais déjà en forme, parce que je marchais beaucoup, parce que je respirais, donc j'étais bien oxygéné, mais la convalescence va se passer beaucoup mieux que si j'étais sédentaire, que j'avais pas déjà une bonne alimentation. Donc ça l'a beaucoup, ça l'a aidé. En fait, comme je disais à ce moment-là, j'ai dit, moi, la marche et la respiration, ça a sauvé ma vie. J'ai été en meilleure forme.
Bien, c'est ça. Au début, je disais que la marche était une bouée de sauvetage pour vous, en quelque sorte, mais c'est beaucoup la respiration. Et je fais le lien tout de suite avec la marche afghane, que vous pourriez peut-être expliquer en 30 secondes ou une minute, parce que c'est un élément, un facteur de bonne respiration.
Oui, en fait, la marche afghane est basée sur la respiration, sur le souffle. Donc, moi, quand j'ai rencontré le cardiologue, j'essayais de comprendre davantage qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais pas eu de symptômes, mais c'est le fait de bien respirer. En fait, brièvement, ce qui se passe, avec la marche afghane, c'est la synchronisation du souffle sur ses pas, selon le terrain.
Donc, aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. Mais dans mon cas, pourquoi j'avais pas de symptômes, l'hypothèse, bon, c'est que on a trois artères coronariennes et on a, quand en vieillissant, c'est normal, il y a des espèces de ramifications qui vont se faire. Donc, il y a des veines qui s'ajoutent naturellement. Mm-hmm. Mais le fait de respirer profondément avec une respiration totale, bien, on amène beaucoup d'oxygène et mon cœur, bien, on l'a alimenté en oxygène à ce moment-là.
Oui.
Donc, mon cœur souffrait, mais je m'en rendais pas compte.
Aucune douleur
à ce moment-là. Ouais. Oui. Donc, c'est l'oxygénation supérieure que j'amenais à mon cœur qui faisait que j'avais pas de signes, symptômes très évidents.
Oui. Donc, en boutade un petit peu au début, je disais que c'est la marche qui va sauver la vie, vous l'avez dit aussi, mais c'est aussi la respiration. Et avec la marche afghane, on apprend que c'est les deux. Dans le fond,
c'est ça. C'est la marche et la respiration.
C'est pas uniquement la respiration, c'est la marche aussi.
Oui, effectivement. Ouais. C'est en fait, moi, je me plais maintenant à dire, c'est la respiration en mouvement.
Ah, intéressant. La respiration en mouvement. Et le mouvement, évidemment, c'est la marche. Ça pourrait être le vélo, je ne sais
pas.
Oui,
oui, exactement, c'est ça. C'est, oui.
Dans ce cas-ci, c'est la marche.
Exactement.
Bon, alors, la marche afghane nous amène à aller voir de l'autre côté, juste à côté de vous, notre invité, Éric Lafortune. Éric, parlez-nous de votre parcours depuis que vous êtes tout jeune. Non. Mais parlez-nous un peu de vous et ce qui vous amène ici aujourd'hui, mais on le verra plus tard.
Merci, Denis. Moi, je me présente Éric Lafortune. Je suis âgé de 50 ans. Je suis le plus vieux d'une famille de quatre enfants venant de Saint-Roch-Lachigan. Mm-hmm. Lors de mon arrivée à la Veltrie vers 1995, j'ai été dans les scouts comme animateur. Nous avions un groupe uni d'animateurs qui faisait plusieurs randonnées de plusieurs jours partout dans notre belle province.
Donc, vous étiez déjà un peu marcheur.
Oui. Dans mon jeune temps, j'ai fait les Chic-Chocs, les Monts Grous, les parcs des Grands Jardins.
Oui.
Donc, plusieurs grandes randonnées. En 2001-2003, deux magnifiques filles, Laurie et Ariane, sont arrivées dans ma vie grâce à leur mère, qui fut ma conjointe durant 23 ans.
Oui, bon parcours.
Oui. Dans la vie familiale et le travail, on fait en sorte que je me suis occupé à faire d'autres choses que la marche, donc plusieurs activités familiales. En 2014, j'ai été malade quelques jours, puis pendant environ deux semaines, et je me suis ramassé à la clinique, et on m'a annoncé que j'avais la leucémie. Donc,
oh là là.
Un petit peu comme l'annonce à la télévision, là, quand on bascule par en arrière, donc notre vie vient de basculer complètement. J'ai dû recevoir une greffe de la moelle osseuse, donc c'est...
De votre sœur,
de
votre
sœur. Mes deux sœurs étaient compatibles avec moi, donc dans ma malchance, j'ai eu une bonne chose qui m'a sauvé la vie.
Oui.
Sur mon lit d'hôpital, je me suis dit deux souhaits.
Ça, c'est après l'intervention, c'est
oui,
ça?
Oui, après l'intervention.
Et on vous dit, ça va aller ou on espère que ça va aller, mais... C'est un peu plus positif, disons.
Oui, mais je me suis dit qu'en sortant de l'hôpital...
Si je m'en sors,
j'ai deux souhaits.
Oui.
Donc, avoir mon commerce, un dépanneur,
oui.
Que ça a toujours été mon rêve, et de faire le chemin de Compostelle.
Et c'est un peu à l'opposé, hein?
Oui, c'est un peu à l'opposé.
Le dépanneur et Compostelle.
Exact.
Et ça m'intrigue, pourquoi le dépanneur pour... C'est le côté commerce, rencontrer
côté
des
commerce.
Gens,
oui.
Un peu des deux.
Mon père est dans le public, donc j'étais habitué à avoir plusieurs personnes et j'ai été camelot plus jeune, j'ai travaillé dans différentes épiceries, dépanneurs, le contact humain, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Ceci beaucoup. Explique cela.
Voilà. Exactement. Donc, en 2015, en sortant de mon année là, de transition là, après la maladie, je réalise mon premier rêve, qui est d'avoir mon dépanneur.
Donc, en 2015.
Ben oui, avec oui. mes filles et ma conjointe de l'époque.
Oui.
En 2020, pendant la pandémie, donc j'étais un des seuls commerces qui était ouvert pendant la pandémie.
Ah oui,
un dépanneur, c'est un...
essentiel.
Un besoin essentiel. C'est ça. Oui. Donc, mais une bactérie foudroyante est venue m'attaquer, provoquant de l'arthrite septique. Donc, j'ai été opéré à trois endroits différents.
Et c'est quoi l'arthrite septique, pour bien comprendre?
C'est une bactérie qui s'est logée dans mes articulations, du poignet, de la hanche et aussi au thorax.
Mmh.
Okay, donc,
assez répandu quand même.
Assez répandu. Oui. Donc, le microbiologiste, il a fallu qu'il concentre, qu'il essaye d'enlever cette arthrite-là, donc avec des antibiotiques. Par contre, l'arthrite a fait en sorte que ma hanche s'est effritée. Donc, je perdais l'usage de ma hanche.
Seulement qu'une?
Seulement qu'une parce que la bactérie, ouais. C'est logé
dans ce cas. C'est ça, oui.
De ce côté-là. Puis, mm-hmm. ils m'ont opéré deux fois pour enlever l'inflammation.
Mm-hmm.
Donc, j'ai dû rencontrer un orthopédiste pour me faire opérer. Par contre, étant donné que j'étais en surpoids...
Mais je crois qu'ils ont remplacé la hanche.
Ben, ils ne voulaient pas m'opérer au début.
Oui.
Parce qu'ils m'ont dit, étant donné que j'étais en surpoids, il fallait que je prenne soin de moi avant de m'opérer. Moi, je lui ai dit que c'est là que je voulais vivre, que c'est là que je voulais profiter de la vie. Donc, je voulais qu'il m'opère, que je prendrais soin de moi.
C'est ça.
C'est certain.
Oui.
Mais étant donné que j'avais 40 ans, donc c'est ça, 40 quelques années, il ne voulait pas m'opérer.
Parce qu'on dit une prothèse, il faut la remplacer dans 20 ans ou
exactement.
Quoi que ce
soit. Exactement. Mais moi, j'ai dit, c'est pas à 70, là, à 65 que je veux vivre, c'est
oui,
maintenant.
C'est maintenant, oui, oui.
Fait que...
Ce que Patrick disait tout à l'heure, le moment présent, l'instant présent, ouais, c'est aujourd'hui qu'on vit.
Exactement. Fait qu'il a finalement, il m'a opéré. Quelques mois plus tard, j'ai racheté les parts de mon ex-associé, je me suis séparé. Donc, plusieurs changements dans ma vie de cette année-là.
Mm-hmm.
Après l'opération, Patrick est un client que je croisais au dépanneur.
Puis, vous habitez tout près, donc...
Exactement.
C'est ça,
ouais. Je cherchais mon café tous les jours au dépanneur.
Puis Patrick a vu que je me suis fait opérer, donc, puis que je commençais à marcher un petit peu dans le coin là, du commerce. Puis c'est là qu'il est venu, qu'il m'a proposé une fin de semaine de retraite, marche afghane.
Mm-hmm. Ben, qu'est-ce que c'est que la marche afghane?
Exactement. Mais étant donné que j'ai commencé à prendre soin de moi dans plusieurs oui. aspects de ma vie, j'étais mm-hmm. tellement ouvert aux nouvelles possibilités que j'ai dit oui tout de suite.
Alors Patrick, comment vous avez présenté ça, la marche afghane, à votre... dépanneur du coin.
Ben en fait, il aimait marcher, donc on a commencé à discuter, puis bon oui, j'aime marcher, d'accord, ben moi je donne des cours de marche afghane.
Oui, oui, oui.
Puis là, ben je lui ai pas, tu sais, on parle davantage, c'est le souffle, la respiration, puis c'est le moment présent, c'est la détente, donc on n'est pas nécessairement dans la performance, donc ça pourrait être super intéressant pour toi, parce que pour te remettre à marcher et t'encourager à marcher.
Oui, oui. Et donc, ça a piqué sa curiosité, hein?
Oh, oui, oui, oui,
oui, oui. Oh, oui, oui, oui. Puis, cette fin de semaine-là, là, une fin de semaine extraordinaire. Et
comment ça s'est passé?
Ah, c'est une connexion
pour vous, là, pour vous,
avec ouais. la nature.
La nature, parce que c'est en pleine nature.
Oui, exactement. Puis ça, c'est une douzaine de personnes, 12-15 personnes là,
oui.
qui sont ensemble, qui ont envie de vivre le même type d'expérience, le même moment.
Oui, oui.
Oui, fait que c'est une fin de semaine extraordinaire là, qui a mis un point tournant, je dirais, dans ma vie, dans ma santé.
Vraiment, oui.
Ah oui, oui.
Oui.
Donc, par la suite, en sortant de cette fin de semaine-là, mais là, c'est là que Patrick Moussy m'a parlé du défi du Mont Washington qui mettait en branle pour l'année d'après. Donc,
oui.
J'ai dit oui tout de suite parce que...
Rien ne l'arrêtait maintenant.
J'étais parti.
Tel oui.
Forrest Gump.
Forrest Gump. Mais Patrick, très rapidement, encore une fois, le défi du Mont Washington, ben, c'est où le Mont Washington et tout ça pour nos éditeurs qui ne sont peut-être pas tout à fait au parfum?
Ben, le Mont Washington, c'est dans l'État du New Hampshire. C'est le plus haut sommet au nord-est des États-Unis.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas un exercice de compétition ou de performance. C'est une activité activité qui dure à peu près 5 mois. Donc, des formations, l'apprentissage, que ce soit de la marche afghane, l'orientation en forêt, des sorties qu'on va faire préparatoires pour amener les gens à repousser leurs limites. Mais on n'est pas dans la compétition. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, Eric. Il cherchait pas nécessairement de la compétition. C'était de vivre une expérience humaine avec d'autres personnes qui veulent échanger sur un peu sur le même thème. Mm-hmm. Donc, on s'en rend compte même aujourd'hui avec les cohortes précédentes, la cohorte à Eric, c'est l'aspect humain qui s'est bâti. Donc, il y a des amitiés après qui vont naître de cette expérience-là.
Oui, oui.
Donc, le final, c'est de gravir le Mont Washington. On fait la boucle du Mont Washington. Ça, mm-hmm. c'est l'ultime journée. Mais sinon, c'est un 5 mois vraiment d'activité puis de relations humaines vraiment profondes. Il y a des moments touchants. Oui, il y a des moments touchants.
Tels que, par exemple?
Entre autres, lorsqu'on se prépare à partir, là, hey, la gang, ça fait 5 mois qu'on développe nos capacités.
Ah, il y a toute la préparation.
Il y a toute la préparation.
Ça, oui. Ça dure plusieurs mois. Là.
Mm-hmm. On est prêt à partir. Puis là, on y va. Puis là, il y a comme une fébrilité. Puis une fois que les gens ont complété, là, c'est pas rare qu'il y a des larmes d'émotion. Là, que de voir, il y a de fierté, il y a un accomplissement.
C'est une expérience humaine.
Exactement.
Alors, Eric, comment ça s'est passé de votre point de vue, là, le Mont Washington? Comment vous vous êtes senti?
Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est du monde qui veulent améliorer leur mode de vie un peu, mais il n'y a pas de grande distance ou de petite distance ou de grands défis. Chaque défi est important. Fait qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus dans la performance que d'autres, mais dans ce style de défi-là, ça paraît pas.
Mm-hmm.
Parce que celui qui marche plus vite, il attend peut-être celle qui marche le moins vite ou celui qui marche le moins vite. Donc, tout le monde, c'est l'entraide.
C'est l'entraide.
C'est l'entraide. Parce que tout le monde veut amener son prochain à destination.
Oui.
OK. C'est ce que j'ai ressenti.
Donc, il n'y a pas de pression.
Non.
Ce n'est pas de la performance. Donc, c'est dans la pleine détente.
Oui, dans la pleine connexion, dans le moment présent. Oui.
Avec les autres et avec la nature.
Oui, moi, j'ai des images que je revois encore, des gens qui sont en super forme, peut-être plus en forme que d'autres, puis de voir des gens tendre la main à l'autre personne pour l'aider à passer un obstacle, à monter. Là. Moi, j'ai l'image de Sylvain, entre autres, là, qui donne la main à quelqu'un pour franchir l'obstacle. C'est des images marquantes.
Et qui restent, et ces gens-là se parlent par la suite, s'écrivent ou se téléphonent. Mm-hmm. Ou
ils marchent ensemble, ils s'organisent au final, le défi du Mont Washington, c'est de développer l'autonomie chez les gens qui veulent marcher en montagne. Donc maintenant, on les voit, là, cette année, ils sont allés faire une randonnée aux États-Unis ensemble, mais en autonomie, ils sont capables de tout faire l'organisation de leur sortie.
Qu'est-ce que j'aime un petit peu de ce groupe-là, c'est que Patrick, qu'est-ce qu'il a semé, là? Mais c'est pas juste pour le défi du Mont Washington. Parce qu'en même temps qu'il était sur le Mont Washington, nous, on était sur Lafayette. OK? Donc, moi, je vois que comme quoi Patrick, avec ses enseignements, nous amène, il est en train de semer quelque chose au Québec et à grandeur du monde, parce que quand il marche à travers les chemins de Compostelle et tout ça, et je trouve qu'il sème du bonheur un peu partout. Et c'est une fierté, parce qu'on était sur le Mont Washington avec son drapeau de kilomètres et on était fiers de prendre une belle photo.
Mais je ne volerai pas ton titre de marchand de bonheur.
On y viendra un peu plus tard. Donc, Mont Washington, belle expérience. Marche afghane. Mais là, je suis curieux. Hein, j'ai toujours des questions. La marche afghane, on peut la pratiquer à tous les jours, quotidiennement. Est-ce que vous le faites des fois?
Oui. Disons que je dirais que c'est plus facile pour moi, personnellement, de le faire quand je marche seul. Si je marche avec quelqu'un d'autre en discutant, c'est plus difficile. Mais presque à tous les jours, quand je marche seul, c'est quelque chose que je pratique.
Oui.
Surtout quand que j'ai des défis supplémentaires. Exemple, il faut que je monte une certaine montagne, mais ma respiration s'adapte en conséquence.
Oui, c'est ça. Je reviens tout de suite parce que nous avons des auditeurs de tous âges, mais aussi des personnes plus âgées. Et quand j'entends parler d'indépendance, d'autonomie, c'est très important pour les personnes plus âgées aussi. Donc, la marche et la marche afghane pourraient être un outil dans ce sens-là pour conserver, améliorer, maintenir son autonomie.
Effectivement, parce que c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est très simple. Il suffit d'être guidé pour en apprendre les rouages, mais c'est très simple. Et moi, comme par exemple, pendant ma convalescence, On parlait de la respiration, la marche afghane qui m'a sauvé, là, qui était la bouée de sauvetage pendant la convalescence, de reprendre les rythmes de marche afghane. Il y a un exercice, je ne sais pas si vous vous souvenez, Denis, mais d'amplification pulmonaire, hein, ce qu'on on appelle la fontaine de jouvence.
Oui.
Mais cet exercice-là, c'est ça qui a fait que j'ai pu améliorer mon souffle, parce que quand on sort d'une chirurgie, souvent, c'est le problème au niveau des poumons. Donc, de reprendre notre capacité pulmonaire, et c'est grâce à l'exercice d'augmentation, là, d'amplification pulmonaire.
C'est ça, oui. Et même de mode de vie assis.
Oui.
C'est de reprendre progressivement. Alors, Eric, on s'éloigne toujours de votre parcours, mais c'est très intéressant. Alors, Mont Washington, etc., et la suite?
Bien, la suite, c'est que, en prenant soin de ma santé, j'avais un surpoids, comme que je t'ai dit.
Et de combien, sans indiscrétion?
Bien, j'étais 75 livres de plus que maintenant. OK, donc en un petit peu plus que 2 ans, j'ai réussi à m'enlever 72 livres.
Alimentation, mode de vie, marche, tout ça.
Oui, exactement. Alimentation, j'ai une discipline depuis plusieurs mois suite à ça, qu'à tous les matins, je prends 1 heure pour étirement, lecture, méditation, bien manger. Je m'entoure aussi de bonnes personnes, de coach. Moi, je me considère tel une Formule 1. Donc, j'ai les meilleurs ingénieurs. Patrick est mon ingénieur en chef de la marche. J'ai Michael, mon coach de vie. J'ai Sandy, ma coach de nutrition. Et j'en ai plusieurs autres. Donc, je m'entoure des meilleurs dans leur domaine.
C'est bonne leçon quand même, ça. On a toujours l'impression qu'on peut tout faire soi-même.
Oui.
Mais de bien s'entourer.
Oui. Et j'ai décidé de m'occuper de ma santé au lieu de subir les maladies.
Oh, belle approche. Okay. Belle approche, oui. Okay.
Puis suite à mon premier rêve que j'ai réalisé, mais j'en avais un deuxième.
Compostelle.
Voilà. mon coach de vie au début de l'année, il dit, Eric, c'est ton deuxième rêve, là, c'est quand tu le réalises? Ah, ben ça s'en vient. Ben il manquait seulement que la date.
Mm-hmm.
Fait que c'est quoi? C'est la vie, là, n'est faite que de choix qui nous appartiennent. Oui. Donc, si on met pas des actions concrètes à tous les jours, on n'arrivera pas à nos fins. Donc, il manquait que la date. Fait que j'ai acheté un billet d'avion. Je suis parti du 23 septembre au 15 octobre dernier.
Donc c'est la date du billet d'avion qui a tout motivé.
C'était juste ça qui manquait.
Qui a tout dirigé, là.
Ben oui, il manquait juste un billet d'avion. Ben oui, j'étais prêt depuis plusieurs années. Mais j'avais pas mis de date.
Ben c'est ça. C'est la décision. Ça, c'est du concret, hein, le billet d'avion.
Exact. Fait que, suite à ça, ben, j'ai rencontré Patrick pour qu'il me coach un petit peu au niveau du chemin potentiel.
Ajuster la F1, là.
Oui, juste ajuster. Oui, exactement, tel un ingénieur. Fait qu'il m'a ajusté ça. Ça a duré 1h30 environ, notre conversation.
Oui.
Puis, je suis parti du Puy-en-Velay le 23 septembre dernier.
Et tout seul.
Tout seul.
Oui.
Avec un pack-sac de 17 livres. Et c'est la seule chose que j'avais pris comme décision. Et c'est le voyage qui a changé le restant de mes jours.
Rien de planifié à la base.
Rien de planifié. Une connexion avec la nature, avec des êtres humains.
Oui.
Que de la pleine conscience.
Liberté,
oui.
Hein?
Oui.
Parce que justement, rien de réservé, Eric, je crois.
Oui, rien réservé.
Pas d'hébergement, donc on y va sans horaire.
Oui, c'est ça.
Fait que j'ai marché 530 km en 18 jours. Donc, une moyenne environ de 30 km par jour.
C'est bon pour quelqu'un qui n'avait pas vraiment entrepris de grandes randonnées comme celle-là.
Exactement. Donc, sans aucune douleur, sans blessure, sans ampoule, parce que j'étais bien préparé par mon coach, Patrick. Donc, c'est ça. J'ai décidé de prendre contrôle de ma vie un pas à la fois. Et la vie me le rend au centuple.
Oui. Oui.
Je planifie déjà le prochain voyage.
Oui, un Compostelle?
Un Compostelle et d'autres voyages à travers le monde.
Ou comme Patrick, les Cévennes, ou...
Oui.
En fait, quels sont les autres grands parcours, Patrick, que vous avez entrepris?
Bien, c'est beaucoup sur les chemins de Compostelle. Sinon, c'est le sentier des Appalaches.
C'est ça.
Sinon, le Long Trail aussi, hein, qu'on peut faire entre le Massachusetts et le Canada.
Oui.
Ou juste des segments de l'Appalachian Trail. Donc, Il y a des segments qui sont magnifiques.
Mm-hmm. C'est ça, on ne s'épuise jamais, en
ah,
fait.
Non,
ou on épuise, plutôt on n'épuise pas la beauté de,
non,
de exact, ces endroits.
Exactement. Oui, oui.
Alors, Éric, vous avez un regard très intense.
Mais j'aime véhiculer ça au monde que chaque action est importante, puis il n'y a pas de petits pas. Okay? Quelqu'un qui est capable de marcher juste sa petite rue, son entrée de cour, c'est déjà plus que de rester à la maison.
Oui.
Moi, ça fait environ 2 ans que j'ai plus de télévision chez moi. J'ai pris le choix d'aller marcher. Mm-hmm. Donc, en fin de journée, c'est facile de s'en venir à la maison puis d'être sur plusieurs applications. Mais j'essaie vraiment de mettre des actions. Et si je marche juste 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, c'est déjà mieux que rien pantoute.
Et qu'est-ce que vous faites en marchant? Vous écoutez quelque chose?
Non.
Vous observez?
J'observe. Moi, j'observe. OK? Oui. Fait que j'écoute pas de musique, moi, en marchant. C'est vraiment, je regarde la nature. Je fais des câlins aux arbres. Et oui.
Donc, ça a changé votre vie.
Ça a changé.
Ça se répercute comment à votre commerce en tant que dépanneur?
Il y a beaucoup de monde qui sont impressionnés par ce que j'ai fait, mais je leur dis que...
Qui ont vu l'évolution.
Qui ont vu l'évolution.
Depuis plusieurs années.
Mais je leur dis que c'est chaque jour, c'est un 24 heures à la fois. Moi, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Je fais juste d'aller marcher, j'ai changé mon alimentation et je marche un petit peu à tous les jours.
Oui.
Chaque personne est capable de le faire, de changer des petites actions. Mm-hmm. C'est pas de voir le final qui est important, c'est de mettre un pas à la fois. Donc, c'est ce que j'aime partager, un pas à la fois.
C'est ça.
Puis est-ce que je peux ajouter, parce que Éric me lance des fleurs depuis tantôt, mais Éric est inspirant.
Oui.
Donc, de voir quelqu'un avec son parcours, la leucémie, le problème avec l'arthrite sceptique, puis de s'en sortir, de le voir en forme, heureux. Éric, on faisait une blague tantôt avec le marchand de bonheur, mais quand on rentre dans son commerce, on voit Éric avec le grand sourire, il nous accueille, puis que vous soyez un client régulier ou je suis sûr que c'est la même chose avec tout le monde, il accueille tout le monde. Donc, il est inspirant. Donc, l'influence, c'est sûr, sur s'il est en santé, il est en forme, bien, ça se répand autour de lui, ce bonheur.
Ben oui. Alors, quand on va chez ou à votre dépanneur, on vous reconnaît comme le marchand de bonheur.
Oui, le marchand parce que je vends des produits et j'aime marcher.
Oui.
Et de bonheur parce que moi, je suis matinal. J'ai une routine que je pars à 3h30 le matin.
Le jeu de mots est bon.
Et bonheur que je répands le bonheur.
Oui. Ah, c'est bien. Ben, écoutez, on arrive à la fin de notre entretien. Il y a quelques leçons là, qui se dégagent. Donc, être en forme pour subir avec succès certains défis au niveau de la santé, d'accord, pour les surmonter plus facilement.
Oui, effectivement. Si vous, présentement, vous n'avez pas de problème de santé connu, eh bien, de vous garder en forme, de marcher, d'avoir la meilleure alimentation possible. Mm-hmm. Mais si jamais vous avez des obstacles, un problème de santé qui apparaît, ça va être beaucoup plus simple de vous en sortir, de pouvoir revenir en forme après une intervention ou après un traumatisme quelconque. Oui, exactement.
Et Éric, bien s'entourer avec les ingénieurs comme Patrick et autres.
Oui, bien s'entourer et que chaque action est importante.
Et le moment présent.
Oui.
Toujours. La présence attentive.
Oui. Avez-vous quelques petits conseils, quelques petites recommandations supplémentaires, des lectures peut-être pour nos éditeurs qui aimeraient vous suivre dans vos pas?
Mais il y a plusieurs lectures inspirantes, évidemment. Donc, entre autres, tous les ouvrages de David Le Breton.
Oui.
Qui récemment, là, c'est ce que j'ai lu justement au printemps dernier, les 3 livres de Le Breton qui sont vraiment inspirants. Donc ça, c'est de la lecture, des récits de voyage. Vous avez Mme Grégoire là, qui est venue faire une présentation.
Oui.
Ce genre de lecture-là, c'est inspirant, ça nous donne le goût de vivre et de bouger.
Oui. Éric?
Moi, il y a Kilomètre Zéro que j'ai adoré aussi, OK, qui est comme un mix de marche, mais aussi de prendre soin de nous. Okay.
C'est une lecture?
Oui, c'est une lecture. Kilomètre Zéro. Fait que j'ai lu ça là, sur le chemin de Compostelle.
Ah oui, et ça vous a inspiré tout le long.
Oui.
Ça vous a accompagné tout tout au long de votre chemin de Compostelle. Alors, monsieur, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite bon cheminement, bonne santé.
Oui.
Et allez voir le marchand de bonheur, tiens.
Oui.
À la Noret.
À la Noret.
Merci.
Alors, à la prochaine et encore une fois, merci.
Merci, Denis.
Merci, Denis.
Au revoir. Et voilà, c'est l'heure des trouvailles du Serein Pèlerin. Alors bonjour et merci Michel de vous joindre à nous encore aujourd'hui.
Un grand plaisir Denis et puis un plaisir de vous retrouver ainsi que nos auditrices et nos auditeurs.
Michel, vous m'intriguez toujours. Cette semaine, vous nous proposez de nous parler de la marche comme stratégie pédagogique universitaire. De quoi s'agit-il exactement?
Mais Denis, les gens qui nous suivent depuis un certain temps savent que j'ai travaillé pendant une trentaine d'années comme professeur-chercheur à l'Université Laval. Et puis, dans ce contexte-là, j'ai utilisé la marche comme stratégie pédagogique dans plusieurs cours pendant plusieurs dizaines d'années.
Intéressant. Mais avant de nous parler de cette utilisation un peu particulière de la marche, rappelez-nous comment et dans quel domaine vous enseignez.
Mais comme aussi la plupart des gens le savent maintenant, je suis sociologue de métier et j'ai fait toute cette carrière-là dans le domaine de la santé. En particulier dans le domaine de la santé publique, que j'appelais santé publique communautaire et des populations. Puis juste pour se donner une idée de pourquoi un sociologue travaille en santé publique, en fait, la santé publique, d'abord, ça consiste à comprendre ce qui rend les populations humaines malades et ce qui les maintient en santé. Et puis là-dedans, il y a toutes sortes de facteurs, dont des facteurs sociaux. Ensuite, en santé publique, à partir des données scientifiques et des meilleures pratiques, on essaie, une fois qu'on a compris ce qui maintient les populations en santé ou qui les rend malades, d'identifier des interventions qui permettent de combattre la maladie ou de promouvoir la santé. Puis finalement, en santé publique, on travaille à contribuer à la mise sur pied et à l'évaluation des interventions. Alors moi, pendant une trentaine d'années, mon poste était en sciences infirmières, comme sociologue de la santé. Puis pendant les premiers 10 ans de ces 30 ans-là, j'enseignais au premier cycle, au baccalauréat, surtout à des clientèles infirmières. Mm-hmm. Et puis les 20 dernières années, surtout au niveau de la maîtrise et du doctorat, des clientèles qui étaient plus interdisciplinaires. Donc, dans plusieurs cours, j'ai vraiment utilisé la marche comme outil pédagogique.
Alors, je suis vraiment curieux, Michel, dans quel contexte vous avez fait marcher les personnes qui suivaient vos cours? Expliquez-nous un peu.
Bien, la première utilisation que j'ai faite, c'était dans un cours qui s'appelait « Structure sociale et santé ». C'était un cours assez particulier parce que c'était un cours qui s'adressait aux infirmières qui faisaient leur baccalauréat en sciences infirmières. C'était un cours de première session, de première année. Et c'était un gros défi parce que les infirmières, en fait, en général, quand ils s'en vont travailler comme infirmières, les sciences sociales, c'est pas leur tasse de thé tellement. Ils voient plus la biologie, etc. Et puis, le fait que ça soit en sciences sociales, première session de la première année, parce que le fait que ça soit de très grands groupes, j'avais des groupes d'à peu près 200 personnes, là, c'était assez... spécial, avec deux clientèles différentes mais homogènes. Une première clientèle qui provenait du cégep, donc des jeunes femmes qui arrivaient directement du cégep, du profil sciences de la santé, et aussi un peu moins grand nombre que les premières, mais quand même des gens qui venaient dans ce qu'on appelait le baccalauréat de perfectionnement. Donc, des infirmières qui étaient déjà infirmières, qui avaient leur formation infirmière du cégep, mais qui voulaient revenir se perfectionner à l'université. Alors, mon pari pour essayer de convaincre ces gens que la sociologie avait un certain intérêt, c'est que je suis parti de l'idée d'un de mes professeurs à Boston, John McKinley, qui disait « Les gens des sciences de la santé, si tu les attrapes par l'idée de la carrière d'un patient, c'est-à-dire comment ça se fait qu'un patient, quand tombe malade, après ça, quand il est malade, par qui il est soigné, à travers quel système il passe, est-ce qu'il en meurt, puis tous les enjeux autour de la mort, est-ce qu'il survit, etc. » Donc, cette ligne-là pour organiser les choses m'apparaissait vraiment une très bonne idée. Et puis aussi, je me suis dit « Je vais essayer de les intriguer en les faisant sortir des murs de l'université. » Donc, j'ai fait des travaux d'équipe qui leur demandaient d'aller rencontrer des couples qui avaient accouché avec des sages-femmes, d'autres travaux qui allaient leur demander de faire d'observations dans les salles d'attente d'un hôpital, d'autres d'aller interviewer des infirmières qui œuvraient dans différents types d'institutions. Puis finalement, il y avait un travail pratique qui était d'aller marcher durant 3 heures dans 2 zones de la ville de Québec.
C'est vraiment fascinant. Dites-moi, pourquoi et comment avez-vous utilisé la marche dans ce cours?
Je vais vous lire un peu le plan de cours, ça va vous donner une idée très précise. Parfait. Donc, ça commençait comme ça. Les objectifs du travail. Premier objectif, vous faire prendre conscience de façon précise et détaillée de certaines des différences sociales reliées à la santé. Deuxièmement, vous faire sortir des murs de l'université pour aller dans le vrai monde. Puis ça se faisait pas tant que ça. Hein. Mmh. Ensuite de ça, vous donner une première occasion de développer vos réflexes sociologiques à l'aide d'une technique de l'observation non participante. Alors, les détails pour le cours, là, je leur disais, au cours des prochains jours, vous allez aller marcher durant au moins 3 heures, 1 heure et demie à chaque endroit. Premièrement, dans le quadrilatère formé par les rues Hollande, Chemin Sainte-Foy, Desbraves et Boulevard Laurier. Et deuxièmement, dans le quadrilatère formé par le bas du Cap, la rue Marie de l'Incarnation, la rivière Saint-Charles et la rue Dorchester. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec la ville de Québec, en fait, c'est vraiment la haute ville et la basse ville, à même pas quelques centaines de mètres de différence, en fait. Ou dans la haute ville, on est dans un des quartiers les plus huppés de la haute ville de Québec, et où dans la basse ville, on est dans un des anciens quartiers ouvriers, Saint-Sauveur, en fait, de la ville. Alors, deuxièmement, je leur disais, ben là, il est de la responsabilité de votre équipe de signer les tâches, qui va marcher, qui rédige, etc. Et puis là, je leur demandais idéalement d'aller marcher un peu partout, que tout le monde aille marcher un peu partout, en apportant un carnet de notes où je leur demandais de noter les détails face à 3 types d'éléments. L'habitation, alors quel genre d'habitation ils rencontraient, dans quel état. Mm-hmm. Les services reliés à l'alimentation, est-ce qu'il y avait des épiceries, des restaurants, est-ce qu'il y en avait beaucoup, de quel genre de produits, etc. Puis ensuite de ça, par rapport à l'environnement général, alors je leur demandais, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est espacé, est-ce qu'il y a des parcs, est-ce que vous vous sentez à l'aise à marcher dans ce quartier, est-ce qu'il y a de la pollution sonore, atmosphérique, etc. Et je leur demandais, notez votre itinéraire de façon détaillée, c'est-à-dire sur quelle rue vous êtes passé, et en vous servant des remarques concernant les travaux là, que je leur fournissais, répondez à la question suivante. Les observations que vous faites par rapport aux 3 variables observées, c'est-à-dire habitation, services alimentaires et environnement, est-ce qu'elles vous aident à comprendre les différences de la mortalité entre ces quartiers et de quelle manière? Puis je leur demandais de joindre un petit plan. Alors voilà, c'est ça que je leur demandais.
C'est absolument pertinent et fascinant, habitation, alimentation, environnement général. Dites-moi, comment les étudiants ont reçu ce programme, cette tâche, ce défi?
Mais finalement, c'était très positif parce que quand on marche, comme on le sait, on a le temps d'observer. Puis ça produisait des travaux vraiment fascinants parce qu'il y avait plusieurs personnes de la classe qui n'étaient jamais allées marcher à la basse ville de leur vie, ni non plus dans certains des quartiers huppés de la ville. Puis je croise encore des étudiants, et j'en ai rencontré un il y a 3 semaines, justement, 40 ans plus tard, qui me parlent encore de ce cours-là. Donc, j'avais un peu gagné mon pari en permettant aux étudiants de voir l'intérêt de la sociologie. Puis, ça leur permettait, pour cet exercice-là en particulier, de comprendre pourquoi il y a un si grand écart d'espérance de vie à la naissance entre les quartiers, finalement, qui étaient situés à quelques centaines de mètres du, en haut et en bas de la fameuse côte de la Pente Douce qui a été popularisée par l'écrivain Roger Lemelin. Et vous, Denis, avez-vous une idée de justement de l'écart d'espérance de vie entre la haute ville et la basse ville?
Bon, mais Michel, je dirais que c'est peut-être les trois facteurs que vous avez mentionnés, mais je vous laisse nous éclairer là-dessus.
Mais en fait, il y a 8 ans d'espérance de vie à la naissance. Wow. Là, c'est des chiffres de 80, étaient encore plus élevés. Ça, 8 ans, c'est en 2016, c'est les derniers recensements. Mais ça veut dire qu'une personne qui naît dans le quartier de la Haute-Ville, la personne qui naît dans le quartier de la Basse-Ville, la personne de la Basse-Ville a 8 ans de moins d'espérance de vie à la naissance. Donc, c'est quand même très frappant. Là, quand on monte les chiffres aux étudiants puis qu'ils ont pu marcher, ça les aide vraiment à voir ça. Et puis, en fait, Montréal, la différence entre Westmount et Saint-Henri est exactement du même ordre de grandeur. Et puis, on avait à Montréal ce qu'on appelait le T inversé de la pauvreté, c'est-à-dire que la pauvreté se concentrait le long de ce qu'on appelle la Maine, la rue Saint-Laurent, et puis le long du fleuve. Mm-hmm. Puis maintenant, on est rendu probablement avec le H de la pauvreté, avec les quartiers plus au nord maintenant, Montréal-Nord, Saint-Michel, etc.
Bon, écoutez, c'est une triste réalité qui ne semble pas évoluer beaucoup avec les décennies, si je comprends bien. Avez-vous utilisé la marche dans d'autres cours, Michel?
Oui, en fait, dans 2 cours d'introduction à la santé communautaire qui introduisaient au champ en général, un premier qui était de niveau premier cycle pour des infirmières de santé communautaire qui voulaient aller travailler en CLSC. Puis un deuxième cours qui était une introduction aussi, mais pour les gens qui commençaient une maîtrise en santé communautaire, qui là, c'était vraiment une clientèle interdisciplinaire, internationale. Dans les 2 cas, je les faisais marcher d'abord pour les faire réfléchir à ce que ça veut dire une communauté dans leur vie quotidienne.
Et comment la marche était utilisée dans ce contexte?
Ben en fait, je commençais par leur demander d'acheter une carte de la ville, incluant l'endroit où ils habitaient. Je leur demandais de faire un X à l'endroit où ils habitaient sur la carte. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, pendant 2 semaines, de noter d'un point tous les endroits où ils allaient. Et ensuite de ça, donc, ils peuvent y aller à pied, mais pas juste à pied, des fois en voiture ou autre. Puis ensuite de ça, faire un grand cercle et des petits cercles autour de s'il y avait des concentrations de points et de discuter ces grands et ce petit cercle-là à partir de, justement, les définitions, les éléments d'une définition qu'on a de la communauté, à partir de, par exemple, le lieu commun, les valeurs communes, les interactions, etc. En plus de ça, pour le cours de maîtrise, je les faisais marcher pour un autre exercice qui était une espèce d'analyse rapide de leur communauté autour de chez eux. Il y a comme des stratégies, des grilles d'analyse de communauté. Puis là, je leur demandais de partir du territoire de la paroisse catholique où ils étaient, et d'observer en marchant pendant un certain temps 3 caractéristiques, les caractéristiques physiques de la communauté, du milieu naturel et bâti. Est-ce qu'ils voyaient des groupes communautaires et des classes sociales? Puis est-ce qu'il y avait des groupes ethniques? Alors là encore, vraiment, la capacité de la marche à observer lentement, bien, ça jouait vraiment un rôle majeur dans leur intégration plus, je dirais, sensible de concepts qui autrement restent beaucoup dans les livres. Mm-hmm. Et voilà.
Bien, alors, Michel, vous nous surprenez toujours avec vos trouvailles sur des utilisations pas toujours soupçonnées de la marche. Merci beaucoup, Michel. Écoutez, à bientôt pour une autre de vos trouvailles du Serein Pèlerin.
Merci beaucoup, Denis. Puis en passant, j'ai trouvé un nouveau mot. Chaque 2 semaines, on peut dire qu'on se voit à chaque 2 semaines, on peut dire bi-hebdomadaire, mais on peut dire aussi quinzomadaire. Presque quinzomadaire. Alors, la prochaine, dans une quinzaine, pour notre rendez-vous, quinzomadaire.
Quinzomadaire. C'est noté, Michel. À bientôt. Au revoir.
Petit matin, sans horizon. Petit café, fumé d'usine. Je regarde le derrière des maisons. Les femmes sont à leur cuisine. Il y a des oiseaux qui se font la cour sur les fils du bel téléphone et dans l'œil crevé de ma cour. un 747 qui résonne. Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre, je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort, des airs à faire pendre un merle. Les enfants s'amusent dehors, dans la slush, un collier de perles. Au hasard, j'ouvre le journal, crime passionnel rue Lacordaire. Paraît que ça va plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette. En deux annonces à la page 100, avec ce qui reste de la planète. Moi je m'en viens à mon piano, je trouve cet air de ma grand-mère. Et pour les mots je mets le phono de mon petit matin solitaire. Dommage que ce soit si grand, j'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses. Avant de rechanter les roses.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Merci beaucoup à nos invités Patrick Auger, Éric Lafortune et Michel O'Neill, notre serein pèlerin. Merci également à notre magicien de la régie, Lysandre Duplay. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Franck Delorme. La marche invite au détachement et au dépouillement de soi. Elle élague ce qui déséquilibre et redonne forme à notre vie. Quitter pour se libérer, quitter pour respirer, quitter pour recevoir. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!